Chers jeunes, je dois vous parler de l'adoration, ce qu'on appelle l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut revenir sur une réalité encore plus importante, celle qui fait que le Seigneur Jésus demeure présent au milieu de nous. Il nous dit dans l'Évangile, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et même après la fin des temps, nous rentrerons dans l'éternité et nous serons avec lui. Ce qu'il nous a laissé, c'est ce qu'on appelle dans l'Église le mémorial. Vous voyez, il y a le mot mémoire dans le mot mémorial, le mémorial de sa passion, juste avant d'offrir le sacrifice de sa vie sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous délivrer de la mort et pour nous délivrer du mal. Voilà qu'au cours du dernier repas, qu'on appelle la scène, il prend un morceau de pain, comme l'a dit tout à l'heure Julien, ce morceau de pain, il déclare « Ceci est mon corps livré pour vous. » De même avec le vin, « Ceci est mon sang versé pour vous. » Pour comprendre la vérité de ces paroles, il faut d'abord savoir qui est véritablement le Seigneur Jésus. Il n'est pas seulement un homme, parce que moi, si je décide de dire que je suis la tranche de cake qu'il y a devant moi, ça ne va pas marcher. Il faut donc comprendre d'où qui prononce ces paroles pour comprendre le sérieux de la chose. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement un homme parmi tant d'autres. Il n'est pas doté comme nous seulement de la nature humaine. Se trouve caché dans sa nature humaine la nature divine. Nous avons parlé tout à l'heure de la Vierge Marie. On ne s'émerveille pas de la Vierge Marie parce qu'elle a mis au monde un enfant. On s'émerveille et on est dans l'action de grâce parce qu'elle a enfanté le Créateur. Celui qui a créé l'ensemble de l'univers, qui nous a également créé pour l'aimer et pour le servir. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur, entouré de ses 12 apôtres qui vont fonder véritablement l'Église, institue là le sacrement de l'Eucharistie. Voilà un mot encore compliqué qui veut dire en grec l'action de grâce. On l'appelle plus communément la messe. Je vais à la messe. À la messe, chaque dimanche, nous revivons le mémorial de la passion du Seigneur Jésus, puisque le prêtre, en prenant le morceau de pain, ce qu'on appelle une hostie à la messe, c'est-à-dire juste un peu de farine et d'eau. Dans la tradition juive, il n'y a pas le levain dans le pain, donc du coup, là, c'est vraiment le peu de farine et d'eau qu'est l'hostie. Le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Vous ne mangez pas mon corps demain quand j'aurai célébré la messe, mais nous recevons le Seigneur Jésus, puisque la grâce de l'ordination sacerdotale, c'est que le Seigneur Jésus passe par le prêtre pour se donner, et en se donnant, pour nous donner sa grâce, c'est-à-dire sa force. Donc le Seigneur, quelques heures avant de mourir sur le bois de la croix, institue, et le sacerdoce, puisque les apôtres, pour le dire rapidement, sont prêtres, plutôt évêques, ils vont avoir la charge de l'Église, la charge de transmettre le trésor de la présence du Seigneur, et il institue donc cette présence qui va rester là. Il l'appelle le mémorial de la passion, mais lorsque je communie le dimanche, je ne communie pas au cadavre du Seigneur Jésus. Je ne communie pas à un Jésus qui est seulement mort. Dans la tradition biblique, qui n'est pas complètement la nôtre, pour nous bien nous faire comprendre qu'il est vivant, on sépare deux réalités, le corps et le sang. Vous voyez, ce n'est pas du tout pour nous notre façon de réaliser. Pour les Juifs, si on parle que du corps, ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Mais s'il y a le sang qui est le principe de vie, s'il y a le corps et le sang, ça veut dire que là, il est vraiment vivant. Alors le Seigneur Jésus, il va verser son sang pour nous, comme vous avez dit tout à l'heure, Julien. Mais voilà que nous communions à un Jésus qui est mort, mais qui est également ressuscité. Communier, ça veut donc dire que je reçois le Seigneur Jésus lui-même. Des fois, on vient de dire, monsieur l'abbé, monsieur le curé, il faut que vous priez pour telle intention parce que vous êtes plus proche du bon Dieu. J'aimerais être des fois plus proche que je ne le suis, mais nous ne pouvons pas être plus proches du Seigneur Jésus qu'au moment où nous avons communié. Ce qui veut dire qu'au moment où on communie, alors parfois on a la feuille de chant, on a la bouche pleine du Seigneur Jésus, on marmonne quand même le chant, on va s'asseoir, on se relève, on repart. Quel dommage! Nous avons raté le grand cœur à cœur et l'adoration que nous devons avoir à ce moment. Le Seigneur est réellement présent et c'est souvent nous qui sommes très absents à sa présence. Alors le Seigneur Jésus, il s'est rendu présent parce qu'il est Dieu. « Ceci est mon corps livré pour vous », dit-il. Les apôtres ne peuvent pas comprendre, quand il le dit, quand est-ce que le Seigneur va être livré, puisque c'est bien après le repas que le Seigneur Jésus, trahi par Judas, sera livré d'abord aux autorités du temple de Jérusalem, puis aux autorités romaines, jusqu'à être condamné à mort et mourir sur la croix. Le Seigneur, à l'avance, se donne à nous. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Ils ne pourront comprendre le sang versé que lorsqu'ils vont assister à la flagellation du Seigneur Jésus à la colonne, lorsqu'ils verront le sang couler en raison de son couronnement d'épines, ou encore lorsqu'il sera cloué sur le bois de la croix. Là, ils vont voir le sang versé. Voyez, le Seigneur Jésus, il dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Nul ne prend ma vie, c'est moi librement qui la donne. » Le spectateur de la Passion, il doit se dire, « Mais enfin, comment il peut librement donner sa vie puisqu'il est arrêté ? Il est entouré de gardes. On ne le lâche pas d'un instant. Ensuite, le seul moment où on va s'éloigner de lui, c'est quand il sera cloué sur la croix. » Mais intérieurement, le Seigneur Jésus a déjà offert le sacrifice de sa vie. Pour, je le répète, le pardon de nos péchés, nous délivrer de la mort et nous délivrer du mal qui nous gangrène de l'intérieur. Nul ne prend ma vie, c'est moi librement qui la donne. Ça veut dire que le Seigneur, dans ce sacrement, qu'on appelle aussi dans la tradition de l'Église, le sacrement de son amour. Voilà que le Seigneur nous aime tellement qu'il s'offre à nous. De telle sorte que la messe est la réactualisation non sanglante du sacrifice du Christ. Lorsqu'on est à la messe, on peut arriver à la messe très joyeux, c'est bien. Mais il ne faut jamais oublier que la messe, on est placé au pied de la croix. Le Seigneur Jésus, je vous dis, va réactualiser son sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'il va à nouveau mourir. Mais le mystère du temps fait qu'à la messe, on est à la fois au pied de la croix, on est à la fois aux côtés de Marie-Madeleine, au pied, au tombeau de Pâques, et nous recevons le Seigneur mort et ressuscité. Parce que la messe, dans notre tradition occidentale, vise l'efficacité. C'est-à-dire, on va commencer la messe, il va y avoir un temps de lecture, il y aura l'offertoire, il y aura la consécration, la communion, l'envoi. Tout cela est condensé grosso modo en 40 minutes, une heure. C'est vraiment l'efficacité qui a caractérisé la tradition liturgique de l'Occident. En Orient, la célébration de la messe, s'appelle ça la divine liturgie, elle va durer 3 à 4 heures. Et dans ce très long temps de méditation se trouve un temps que nous n'avons pas trop, qui est celui de l'adoration. On entend au jour d'aujourd'hui le verbe adorer pour tous les sujets. J'adore le cake, j'adore l'iced tea, j'adore le chocolat, j'adore mon père, ma mère, bref. Pourtant, bien que nous sommes français et que nous avons une langue extrêmement riche, nous n'avons pas beaucoup de vocabulaire pour dire ce que nous aimons. Il y a le verbe aimer, apprécier, et il y a le mot adorer. Le mot adorer n'a normalement pour sujet que le bon Dieu. J'adore Dieu. C'est d'ailleurs un des premiers commandements. Tu n'adoreras que Dieu seul. Alors du coup, je ne peux déjà que vous inviter à faire attention à l'utilisation du mot « adorer ». Adorer, c'est l'amour si particulier que je peux avoir pour Dieu. De telle sorte que quand on dit « j'ai communié », donc j'ai reçu ce petit véhicule, pourrions-nous dire comme image, dans laquelle se trouve la présence du Seigneur, et du coup ce moment de cœur à cœur où je sens à la fois que le Seigneur est présent en mon âme, où je peux lui parler, où je peux l'écouter. Alors, il ne va peut-être pas forcément nous parler par une voix intérieure, mais on sent quelque chose de la paix qui dispense, des réparations intérieures qui peuvent venir opérer, etc. On sent ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement l'adoration. Parce qu'en Occident, on a visé vraiment l'efficacité dans la messe, Mais on a ensuite rajouté, en dehors la plupart du temps de la célébration de la messe, un temps qu'on appelle d'adoration. C'est-à-dire que le corps du Seigneur, qu'on appelle aussi le Saint-Sacrement, ça vous fait beaucoup de vocabulaire, la présence du Seigneur dans l'hostie, ben du coup on va la sortir et on va l'exposer dans un grand soleil doré. Généralement c'est une belle orfèvrerie, parce que la présence du Seigneur est la chose la plus précieuse que nous ayons au monde, bien que paradoxalement ce n'est qu'un peu de farine et d'eau, mais rehaussé de la présence du Seigneur, je ne le vois pas avec mes yeux, c'est ce qu'on appelle aussi le Jésus caché dans l'Eucharistie. Je ne le vois pas, je ne peux pas le toucher comme les apôtres pouvaient toucher le Seigneur Jésus, comme cette femme dans l'Évangile qui attrape son manteau, mais le Seigneur est là, présent, mais caché, dans l'hostie sainte. Du coup, prendre ce temps d'adoration, comme on va vous y introduire ce soir, c'est réaliser, sans véritablement que nos yeux le comprennent, que l'on se trouve en présence même de Dieu. De ce Dieu qui nous a tant aimés pour offrir sa vie, de ce Dieu qui nous a tant aimés, qui n'est pas seulement mort, mais qu'il est tout autant ressuscité, de ce Dieu qui nous aime tant, qu'il est réellement présent parmi nous. Alors, il y a plusieurs modes de présence du Seigneur. Il nous dit, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors là, nous avons une réunion d'aumônerie. Nous sommes donc en présence du Seigneur Jésus, parce que deux ou trois, on est réunis en son nom. Le Seigneur peut être présent également lorsque nous nous retirons dans notre chambre pour prier, mais il y a véritablement la présence du Seigneur parmi toutes les autres présences, c'est celle du Seigneur Jésus. Celle du Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Alors quand vous rentrez dans l'église, vous le savez sans doute, il y a la petite lumière rouge qui nous dit « il y a le tabernacle ». Le tabernacle, c'est une petite armoire, une jolie armoire, généralement dans nos beaux retables. Et dans cette armoire, eh bien, on a mis le Seigneur présent dans la communion. Et du coup, quand on rentre et qu'il est présent dans l'église, eh bien, notre attitude n'est pas forcément la même. Comme les rois mages, nous pouvons dire « nous sommes venus l'adorer ». Et que font les rois mages ? Ben, à la fois, ils ploient le genou, ils reconnaissent que Dieu est bien plus grand qu'eux. À la fois, ils déposent leur couronne parce que le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils lui offrent des cadeaux. Ben, nous, on peut offrir de nos difficultés, de nos incompréhensions. On peut offrir de nos douleurs, de nos souffrances. Et puis, c'est un dialogue intérieur qui s'opère. Le Seigneur Jésus est là et je suis face à lui. Parfois, il ne faut pas non plus être trop occidental et essayer de trop réfléchir. Il faut aussi se dire, voilà, le Seigneur est là, j'ouvre mon cœur. C'est un peu ça que vous allez pouvoir vivre ce soir lorsqu'on va se rendre à l'abbatiale et que vous allez être en présence du Saint-Sacrement, en présence de Jésus caché, voilé par l'hostie et pourtant réellement présent. C'est le grand trésor que le Seigneur Jésus a légué à son Église. Il a voulu demeurer caché. C'est un grand miracle. Saint Thomas d'Aquin, quand il parle du miracle, il va nous dire « il y a le miracle des miracles ». Le miracle des miracles, nous dit-il, c'est d'abord que Dieu, qui est si grand dans la gloire du ciel, qui n'a pas de corps, qui est tout puissant, qui sait tout, qui déjà réussit à entrer caché dans une nature humaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est quand on est Dieu que de devenir un homme. C'est pas grand-chose, un homme. Ça a une durée de vie limitée, ça a des capacités profondément limitées, nous sommes des créatures, alors que là, je vous parle du Créateur. Donc déjà, saint Thomas d'Aquin nous dit ça, c'est le miracle des miracles. Voilà que le Seigneur Jésus, Dieu, est caché dans un homme. Voilà pourquoi, quand Jésus meurt sur le bois de la croix, il meurt durant 3 jours, mais le 3e jour, il décide de ressusciter d'entre les morts. Moi, je ne peux pas le faire, vous non plus, je suppose. Tout comme le Seigneur Jésus, par sa nature divine, peut dire à la mer, calme-toi, au vent, tais-toi, arrête, comme il peut dire à l'aveugle, retrouve la vue, comme il peut dire au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et marche. Moi, je peux le dire, ça ne marche pas. Ou si ça venait à marcher, c'est parce que le bon Dieu décidait d'opérer un miracle à travers moi. On n'en est pas là. Donc vous voyez, le mystère du Seigneur Jésus, c'est déjà un grand miracle en lui-même, son humanité cachée, sa divinité. Eh bien, saint Thomas d'Aquin nous dit aussi, La messe, c'est aussi le miracle des miracles. Parce que ce Dieu qui est si grand, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout l'univers pour nous, avec une régularité, avec des lois que vous étudiez en physique, avec un règne sur la vie que vous pouvez étudier en biologie, plein de réalités, eh bien voilà que lui, qui est si grand, eh bien décide d'être présent dans pas grand-chose, un peu de farine et un peu d'eau. Il veut se faire pour nous nourriture. On va arriver dans quelques semaines au temps de l'Avent et avec lui au temps de Noël où là on médite le miracle des miracles, celui de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour venir me rencontrer, pour venir me parler, pour venir me sauver. Mais dans ce grand mystère où Dieu se fait si proche, on va nous dire le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Bon, alors nous on se dit d'accord, il est né à Bethléem. Mais Bethléem veut dire la ville du pain. Où est-ce que le Seigneur Jésus va reposer ? Dans une mangeoire. Que dira-t-il dans l'Évangile ? Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Vous voyez que ce Seigneur Jésus nous dit « Je suis le pain du ciel » et il repose dans une mangeoire. C'est dire le désir de Dieu de se donner à nous, pauvre créature et créature pécheresse. Ce Dieu qui est si grand veut se donner à moi. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà eu un épisode où le peuple était affamé après avoir traversé la mer Rouge et où le bon Dieu va faire tomber le qu'est-ce que c'est ? Alors, parce qu'en fait, il fait tomber la manne et la manne, en hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Manou, qu'est-ce que c'est ? Voilà que Dieu faisait tomber du pain, une petite pellicule de pain chaque jour, et dans la grande sollicitude de Dieu, parce qu'on en avait marre de manger du pain tous les jours, ce pain prenait le goût de ce qu'on voulait. Vous voyez que Dieu nous aime et qu'il est capable de se donner. Là, il donnait la nourriture pour le corps, pour endurer ce temps où le peuple traverse le désert pour arriver en terre promise. Mais c'est déjà l'image de nous ici-bas. Nous sommes chacun membre de l'Église, dans le désert de ce monde. Nous avons à cheminer vers la terre promise qui n'est autre que le paradis. Et pour pouvoir avoir assez de force pour marcher, le bon Dieu se donne à nous dans l'Eucharistie. Pas seulement pour nourrir notre corps. Qu'est-ce qu'on ferait avec un peu de farine et d'eau ? On ne pourrait pas avoir notre journée de sport, on ne pourrait pas avoir toutes nos activités. Il nous manquerait de la force. Le Seigneur Jésus vient nourrir notre âme. Voilà qu'il vient en nous, par sa présence, nous sanctifier. Et si je vous dis qu'il descend dans la mangeoire, ça veut dire aussi, quand je communie, il n'a pas peur de descendre dans ma pauvre âme, qui est comparable à la crèche. Une pauvre crèche. Une pauvre crèche qui accueille le bon Dieu lui-même. Alors lorsqu'on va faire ce temps d'adoration, bien on se trouve présent devant Jésus caché. Nous avons parlé tout à l'heure de la Bienheureuse Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II a une très belle expression. Il nous dit « La Vierge Marie, c'est la femme eucharistique ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment la femme de l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce que la Vierge Marie, si vous voulez, lorsqu'elle est enceinte du Seigneur Jésus, elle est comme le premier tabernacle. Elle renferme en elle le Seigneur lui-même. La Bienheureuse Vierge Marie, c'est une femme eucharistique parce que toute sa vie, c'est de nous donner Jésus. On nous parlait tout à l'heure de Cana. Que dit-elle à Cana ? Faites tout ce qu'il vous dira. Voyez, elle ne cesse de nous renvoyer à son Fils. Et le miracle de Cana, eh bien, est important. C'est à la fois le premier signe que Jésus opère. Saint Jean, il ne veut jamais parler de miracle. Parce que Saint Jean, il se rend compte que plus on parle du miracle, moins les gens croient. Et nous, on penserait l'inverse. On penserait que plus Dieu ferait des miracles, plus les gens croiraient en lui. Or, Saint Jean, quand il a cheminé aux côtés du Jésus, il a vu que plus Jésus faisait des miracles, plus on le prenait pour un faiseur de miracles, et moins on arrivait au but du miracle, dévoiler que sous son humanité se tenait la divinité. C'est pourquoi Saint Jean, il parle de signe. Parce que le signe, il est à interpréter. Le premier signe que Jésus fait, c'est à la demande de la Vierge Marie. Ils n'ont plus de vin. La Vierge Marie se rend compte, qu'à ce mariage, il manque de vin et qu'on ne peut pas faire la fête s'il manque du vin. Et du coup, si elle se permet, pour la première fois, alors que Jésus est âgé, il a environ 30 ans, d'intervenir, c'est parce qu'elle a réalisé deux choses. Elle a réalisé que l'heure est venue. Et pourtant, il va lui dire, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et pourtant, il va faire ce que sa mère va lui demander. Elle se rend compte d'abord que Jésus a été baptisé et surtout, par Jean-Baptiste, il a été reconnu comme l'agneau de Dieu, celui qui vient enlever le péché. Donc là, elle se dit, « Ah, Ça, c'est ce que j'attendais. C'est le départ de la vie publique de Jésus. Ensuite, le deuxième jour, il a appelé à sa suite les apôtres. Et à Cana, on est le troisième jour. Le troisième jour dans la Bible, c'est très symbolique. C'est déjà l'image de la résurrection. Là, la Vierge se dit, il est baptisé, il a été publiquement reconnu. La voix de Dieu le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Deuxièmement, il s'est entouré des 12 apôtres qu'il a choisis. Maintenant, je peux lui demander, parce que pour moi, l'heure est venue, l'heure du salut. C'est pour ça que la Vierge Marie, elle a dit oui. Elle a dit oui pour mettre au monde celui qui allait venir nous sauver. Et donc là, elle lui demande de changer l'eau en vin, alors que, comme l'a dit très bien tout à l'heure Julien, le miracle de l'Eucharistie, c'est que ce vin devient le sang du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, à la fois la bienheureuse Vierge Marie, nous avons bien raison de la vénérer et de la prier, mais on ne se détourne pas en nous tournant vers la Vierge Marie du Seigneur Jésus. Au contraire, elle est toujours le chemin le plus court qui nous ramène à Jésus. Non seulement elle l'a porté comme un tabernacle pendant les 9 mois de sa grossesse, mais elle ne cesse pas également de nous renvoyer à lui. Alors si ce soir, dans la pénombre de l'abbatiale, alors que vous serez en présence du Saint-Sacrement, vous ne savez que dire au Jésus caché, vous pourrez dire à la Bienheureuse Vierge Marie, Sainte Vierge, eh bien, aidez-moi à entrer en contact avec votre Fils, aidez-moi comme vous, eh bien, à réaliser que je suis en présence de Dieu et peut-être à le sentir dans mon âme.